Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est le 8 février. On t'a écorné les bœufs. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène. Ben oui, je suis arrivé tout décoiffé ce matin.
Ben oui, j'ai remarqué ça, la barbe qui retrousse d'un bord puis de l'autre.
Oui, mais j'ai pas le choix, j'ai pas grand-chose sur le dessus de la tête pour être décoiffé.
Et moi, je marchais le long du parc La Fontaine.
Oui.
Et il y a des espaces quand même non habités, si je peux dire, c'est un parc, n'est-ce pas? Puis j'avais l'impression que je me sentais comme la sœur volante, là, sur le bord de décoller.
C'est par là que je passe le matin
oui.
aussi.
Oui. Bon, alors, soyez prudents, hein, parce que les vents, ça peut être dangereux, ça transporte toutes sortes de choses. Allez-y donc, je suis contente de vous retrouver
ben
en ce vendredi, Mathieu.
Moi
les
aussi.
Éphémérides, est-ce qu'il y a une journée de quelque chose
oui,
aujourd'hui?
Oui, nous sommes la journée internationale de l'épilepsie, nous sommes la journée mondiale de réflexion sur la traite des êtres humains et nous sommes la journée mondiale sans téléphone mobile. Et là, vous allez sans doute me dire, mais que se passe-t-il, Mathieu? Voilà trois jours
oui.
que vous nous en parlez. Eh bien oui, c'est que la journée mondiale sans téléphone mobile dure trois jours. Le 6, le 7 et le 8.
Alors, ça s'appelle la journée et non les journées.
Exact.
Bon, alors c'est ça qui nous a induit en erreur parce que hier, Maurice a dit la même chose que vous, Jean-Sébastien aussi avant-hier, et tout le monde avait raison. Mais hier, j'ai dit à Maurice, non, c'était hier. Alors, ça dure trois
oui,
jours.
Oui, en fait, oui.
Et, ça paraît tellement... Quand on prend le métro.
Ça paraît... Ah oui?
Ah non, j'exagère. Oui, je dis n'importe
j'avais
quoi.
J'avais compris
parce que...
votre sarcasme.
Oui, OK.
Et il y a un thème énigmatique cette année qui a pour... Ben, en fait, le thème de cette année, c'est « L'idiocratie a-t-elle sonné? » Le mot « idiocratie » utilisé dans le slogan fait référence au film du réalisateur américain Mike Judge, sorti en France le 25 avril 2007. Le smartphone nous rend-il plus idiot, à trop vouloir miser sur lui à chaque instant de notre quotidien.
Alors, c'est le téléphone intelligent, mais là, il a l'air de dire que ceux et
cela
celles
nous rend-il
qui
plus, ouais.
l'utilisent peuvent être non intelligents,
si
donc
on l'utilise
idiots.
Dans tout moment de notre journée.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais j'entendais aussi que c'est comme une drogue maintenant. Il y a tellement des récompenses qu'on reçoit de façon, comment dire, virtuelle, mm-hmm. oui. Mais à un moment donné, on ne peut plus s'en passer.
Je pense que les applications ont été conçues pour justement ouais. cela, nous rendre dépendants.
Une conspiration.
Alors voilà, je mets mon téléphone dans mon verre d'eau.
C'est
et
fait.
C'est fait. le 8 février 1587, parce que j'aime bien parler d'histoire, Marie Stuart, reine d'Écosse, est décapitée après avoir comploté contre la reine Élisabeth. En 1971, à New York, la National Association of Securities Dealers crée l'indice Nasdaq pour le marché fonctionnant avec l'informatique. En 1972, le club officiel des Beatles cesse d'exister. En 1983, une enquête israélienne sur les massacres de Palestiniens des camps de Sabra et Shatila en septembre 1982 à Beyrouth, recommande la démission du ministre de la Défense, Ariel Sharon. Les Jeux de Sarajevo en 1984. En 1992, les 16e Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent à Iberville, en France. En 2008, après trois jours d'interdiction, le ministre Jacques Dupuis demande que les prisons du Québec autorisent les détenus à fumer dehors dans la cour. En 2011, les procureurs de la Couronne et les juristes de l'État déclenchent la grève au Québec. Et en 2014, les sœurs Justine et Chloé Dufour-Lapointe remportent l'or et l'argent en finale des bosses de ski acrobatique des Jeux olympiques de Sochi. Et pour ce qui est des naissances, un auteur qui est cher à mon cœur, l'auteur des Voyages extraordinaires, né en 1828 à Nantes, Jules Verne, et James Byron Dean... est né, l'acteur, dont James Byron Dean, est né en Indiana en 1931.
Il s'agit
voilà.
de James Dean.
Exactement.
Qui est mort à 33 ans.
Et oui, très jeune.
Ouais. Un grand merci.
Ça fait plaisir.
En une de la presse aujourd'hui, allégation d'ingérence politique face à la tempête. On a Justin Trudeau en photo de profil. Le bureau du premier ministre a-t-il fait pression sur la ministre de la Justice pour éviter un procès à SNC-Lavalin dans une affaire de corruption? Résumé des allégations et des réactions, Yves Boisvert chronique « Comment punir les entreprises criminelles ». Sport hockey mineur, pionnière, pardon, à 15 ans. Elle s'apprête à compléter une saison dans le midget 3A, une rencontre avec Ève Gascon. Monoxyde de carbone, des centaines d'écoles sans détecteur et la chronique de Stéphanie Grandmont. À quand le retour des hypothèques sur 30 ans? Sujet du jour et du week-end et de l'année, peut-être. Alexandre Bissonnette, le teint pâle et amaigri, a commencé à écouter le prononcé de sa peine lu dans une salle de cour du Palais de justice de Québec. Il connaîtra bientôt son sort et le nombre d'années qu'il passera en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Le juge François Huot de la Cour supérieure a fait son entrée dans la salle peu après 9h30 et a commencé la lecture de son jugement de 246 pages détaillant la peine qui sera imposée au tireur de la mosquée de Québec. L'homme de 29 ans pourrait être condamné à passer 150 ans derrière les barreaux avant de pouvoir demander une libération conditionnelle, une peine qui serait alors un record dans l'histoire du pays. Toutes les 250 places de la salle de cour sont occupées par des gens qui veulent entendre de vive voix le prononcé de la sentence. Une section entière est réservée aux membres de la communauté musulmane. Des amis du juge ont aussi été invités. Alexandre Bissonnette a regardé ses parents peu avant le début de la lecture du jugement. Ils sont assis près du box des accusés. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur la mort d'un bébé âgé de 5 mois survenu à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal après son transport par ambulance de son domicile de Sainte-Marthe-sur-le-Lac dans les Laurentides mardi dernier. La possibilité que la fillette ait succombé à un manque d'oxygène après avoir été molestée est envisagée. Selon ce qu'une personne de la station de la petite victime a raconté à la radio privée, la mère qui devait se rendre au travail n'a pu trouver quelqu'un pour garder ses deux enfants pendant son absence. Sa propre mère, une infirmière qui habite dans le même immeuble, n'était pas disponible car elle devait se reposer après de longues heures de travail. Une amie de la mère des enfants lui a donc recommandé quelqu'un pour assurer la garde. Elle a accepté et est partie travailler. Plus tard, la grand-mère des enfants s'est rendue précipitamment dans le logement des enfants après avoir été informée que la fillette semblait subir un arrêt cardio-respiratoire. Ses tentatives de réanimation ont échoué et les services d'urgence ont été appelée pour procéder au transport de l'enfant à l'hôpital. Entre-temps, la grand-mère en état de choc a elle aussi été conduite à l'hôpital alors que la sœur de la victime a été confiée à la direction de la protection de la jeunesse. On ignore tout sur la personne qui devait assurer la garde des enfants pendant l'absence de leur mère. Ce sont les enquêteurs de l'unité des crimes contre la personne de la SQ qui auraient pris les commandes de l'enquête. Trudeau nie avoir poussé sa ministre à intervenir, texte de Fanny Lévesque et de Joël Denis Bellavance. Justin Trudeau est confronté à l'une des pires tempêtes de son premier mandat. Hier, un quotidien a rapporté que son bureau aurait fait pression sur Jody Wilson-Raybould alors qu'elle était ministre de la Justice afin qu'elle intervienne pour qu'une entente à l'amiable soit négociée dans le dossier de fraude et corruption de SNC-Lavalin. Le premier ministre a démenti en bloc ces fausses allégations. Mais les partis de l'opposition estiment qu'il y a anguille sous roche. Le compte à rebours électoral est bien enclenché et ils promettent de déployer tous les outils parlementaires à leur disposition pour tirer cette affaire au clair. Citant des sources anonymes, le quotidien de Globe and Mail a rapporté hier que des membres du bureau du premier ministre auraient tenté de convaincre Mme Wilson-Raybould d'intervenir à la suite du refus du procureur du service des poursuites pénales du Canada de négocier une entente hors cour avec la firme d'ingénierie de Montréal l'automne dernier. Des accusations de fraude et de corruption pèsent contre la firme SNC-Lavalin, qui aurait versé des millions de dollars en pots de vin entre 2001 et 2011 pour s'assurer d'obtenir des contrats avec le gouvernement de la Libye. Ces informations, qui ont aussi été démenties par le nouveau ministre de la Justice, David Lametti, ont eu l'effet d'une bombe politique dans la capitale fédérale, le Parti conservateur pilonnant le successeur de Mme Wilson-Raybould de questions à la Chambre des communes alors que M. Trudeau se trouvait à Maple dans la région de Toronto pour y faire une annonce. Le premier ministre a réaffirmé que le Canada respectait la primauté du droit. Mme Wilson-Raybould, qui a été mutée au ministère des Anciens combattants à la mi-janvier à la suite d'un remaniement ministériel, a refusé de commenter ces allégations, observant le plus grand mutisme aux communes hier, même après avoir été interpellée par l'opposition. Selon le registre fédéral des lobbyistes, des représentants de SNC-Lavalin ont réussi à obtenir une cinquantaine de rencontres avec des responsables gouvernementaux et des députés depuis 2017 afin de discuter de dossiers liés à la justice et à l'application de la loi. Or, 14 de ces rencontres ont eu lieu avec de proches collaborateurs du premier ministre, dont Mathieu Bouchard, qui est le conseiller de M. Trudeau pour le Québec. Ces démarches avaient pour but d'obtenir la conclusion d'un accord de réparation ou d'un accord de poursuite suspendu. Le gouvernement Trudeau a bel et bien amendé le Code criminel afin d'adopter un régime d'accord de réparation en mars 2018, un geste qui avait été vu à l'époque comme une excellente nouvelle par les investisseurs de SNC-Lavalin. Mais le Service des poursuites pénales du Canada a décrété en octobre dernier que SNC ne remplissait pas les critères pour se prévaloir de ce régime, annonce qui a été reçue comme une douche froide par les marchés financiers. Des sources anonymes citées par le Globe and Mail allèguent que la décision de Mme Raybould-Wilson aurait provoqué la colère au bureau du premier ministre. Des centaines d'écoles de la province n'avaient pas de détecteur de monoxyde de carbone avant que Québec n'intervienne à la suite d'une intoxication dans une école primaire à la mi-janvier. À la commission scolaire de Montréal, la plus importante au Québec, moins de 10 % des quelques 200 bâtiments ayant des équipements à combustion en étaient dotés, révèlent des documents obtenus en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Le mois dernier, des élèves et des membres du personnel d'une école primaire de La Salle ont été intoxiqués par une fuite de monoxyde de carbone, si bien qu'une quarantaine de personnes ont été transportées dans différents hôpitaux de Montréal pour être soignées. Le monoxyde de carbone est un gaz qui ne se voit pas et qui est inodore. Le respirer peut provoquer de graves symptômes pouvant aller jusqu'à la mort. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a demandé le 17 janvier à toutes les commissions scolaires de se doter de tels dispositifs sans attendre la modification au code du bâtiment. Le tiers des CHSLD publics de la province n'ont aucun pharmacien sur place pour évaluer correctement la médication des résidents. Une situation qui inquiète l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, qui rappelle que chaque résident de CHSLD consomme en moyenne 14 médicaments par jour. Il y a tellement d'incidents liés aux médicaments. Avoir une présence de pharmacien qui peut réviser l'ensemble de la médication est essentiel, affirme la directrice générale de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Au ministère de la Santé, on affirme ne pas pouvoir confirmer les chiffres fournis par l'association, puisque les pharmaciens sont employés des CI3S et des CIUS et qu'il est de la responsabilité des établissements de répartir leur effectif disponible de façon optimale. Alors qu'un diplôme de premier cycle en pharmacie peut travailler au privé, pour devenir pharmacien d'établissement, il faut obtenir une maîtrise de 16 mois. Chaque année, environ 70 pharmaciens d'établissement obtiennent leur diplôme. On en aurait besoin d'une centaine, note Mme Vaillant. Et pour terminer, le caricaturiste du quotidien Montréal Gazette accuse son journal d'avoir censuré une caricature dans laquelle il trace un parallèle entre la CAQ et le mouvement ultra-raciste Ku Klux Klan. Terry Mosher, qui dessine sous le nom d'Eslin, a formulé ses allégations tard hier soir sur les réseaux sociaux en diffusant l'image, un logo de la CAQ dont le A est caché derrière la capuche blanche d'un membre du KKK. Message d'intérêt public, la Gazette ne veut pas imprimer cette caricature sur la CAQ et le KKK, a-t-il écrit. Qu'en pensez-vous? L'auriez-vous laissé passer? Un courriel envoyé à plusieurs patrons du Montreal Gazette était demeuré sans réponse au moment de mettre en ligne tard hier soir, tout comme un courriel envoyé à M. Mosher. Ce dernier dessine pour le quotidien montréalais depuis 1972 et a signé certaines des caricatures politiques les plus célèbres de l'histoire politique contemporaine.
Accroché au décor, à ta saveur d'été, as-tu le même goût? On soigne plus du même bord, mais pour un soir, j'aimerais ça que tu sois dans mon équipe. J'aimerais ça que tu sois dans mon équipe. Nos corps silencieux culmineront dans un grand cri d'équipe.
Nouveauté, Maxime Auguste, et la chanson s'appelle « Mon équipe ».
En une du devoir des candidats à l'immigration pourraient poursuivre Québec, le gouvernement fait passer à la trappe les 18 000 dossiers en attente. 69e Berlinale, paix à son cœur, paix à son esprit, refusant d'accabler davantage Harvey Weinstein. Juliette Binoche n'en croit pas moins que MeToo était nécessaire, on la voit. En photo, accompagnée de quelqu'un qui s'appelle Dithier Koslik. Juliette Binoche, qui est présidente de la 69e Berlinale, reçoit donc l'accolade du directeur général du festival, Dithier Koslik, à l'occasion de la soirée d'ouverture. SNC-Lavalin joue-t-elle son avenir? Week-end subalterne, des femmes sortent de l'ombre. Jean, Payette et Grande Pépé, la chronique de José Blanchette et la chronique d'une extinction annoncée. On voit une coccinelle tout juste à côté du titre.
Thank you.
Le ministre Simon Jolin Barrette exposera le gouvernement québécois à des poursuites judiciaires s'il élimine les 18 000 demandes d'immigration non traitées comme le prévoit le projet de loi 9 qu'il a déposé à l'Assemblée nationale jeudi, avertissent des juristes. Derrière ces 18 000 dossiers, il y a des milliers de personnes, des individus, des femmes, des enfants, des familles qui, dans certains cas, ont investi temps et argent pour immigrer au Québec, souligne l'avocat spécialisé en immigration Stéphane Hanfield. Jamais on ne leur a laissé sous-entendre qu'un jour, si les délais s'accumulaient, on leur renverrait leurs demandes. On cause des dommages à ces gens-là. Ça pourrait ouvrir la porte à des poursuites. On évalue les recours, a quant à lui signalé au Devoir le président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, Guillaume Clich-Rivard. Pourquoi est-ce qu'on n'accélérerait pas plutôt le traitement des dossiers en attente, demande-t-il. Dans certains cas, les gens attendent depuis 5 ans, ajoute Maître Enfield. Quand on lui fait remarquer que ces personnes n'ont peut-être pas les moyens financiers d'intenter des poursuites contre le gouvernement, l'avocat répond qu'une action collective pourrait peut-être être engagée. Entre la difficulté d'accès au financement international et les occasions d'affaires qui pourraient s'évaporer, notamment dans les contrats publics, les conséquences potentielles d'un procès criminel sont multiples pour SNC-Lavalin, à qui on refuse toujours le recours au programme de réparation qui lui permettrait d'éviter le passage devant les tribunaux. SNC-Lavalin a préféré jeudi ne pas commenter les informations du Globe and Mail selon lesquelles le bureau du premier ministre Justin Trudeau aurait fait pression sur l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour mettre les procédures de côté. Mais il ne fait aucun doute que le spectre d'un procès pourrait avoir des impacts profonds sur la compagnie, estiment des experts. Une condamnation criminelle éliminerait SNC-Lavalin comme entreprise candidate à des contrats et à des financements auprès d'organismes internationaux comme la Banque mondiale, a estimé Yvan Dallaire, président exécutif du Conseil de l'Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques. Le plus important actionnaire de SNC-Lavalin est la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui détient près de 20 % de la multinationale. Son bloc d'actions a augmenté au cours de l'année 2018, selon ce que la presse a écrit au mois de décembre. Invité à réagir à l'article du Globe and Mail, l'institution a préféré ne pas faire de commentaires. Le Canada a-t-il mis ses diplomates en danger à Cuba? Une victime du syndrome de la Havane raconte son calvaire. C'est parce qu'elle s'est sentie abandonnée par son propre gouvernement qu'une ex-diplomate à Cuba s'est tournée vers les tribunaux avec ses collègues pour obtenir réparation. Car pendant plus d'un an, le gouvernement canadien a ignoré ses appels à l'aide, compliqué sa quête de soins médicaux et minimisé la gravité des maux dont elle souffre encore, déplore l'une des victimes du syndrome de la Havane au Devoir. 5 diplomates canadiens ont déposé une poursuite en cour fédérale mercredi pour réclamer plus de 28 millions au fédéral pour eux et leurs proches. Au total, 14 personnes réclament réparation, 5 agents des affaires étrangères, 2 de leurs conjoints et 8 enfants. Leur requête judiciaire reproche au gouvernement de les avoir sciemment mis en danger, en les laissant à la Havane malgré leurs problèmes de santé, en leur cachant les risques encourus et en tardant à les faire soigner. Il y a eu d'énormes délais entre le moment où le gouvernement a eu assez d'informations pour agir et le moment où il a réellement mis en place des évaluations d'experts capables de détecter, d'analyser et de soigner ces problèmes, déplore l'une des victimes du syndrome de la Havane, qui s'est confiée au Devoir. Les 14 plaignants souffrent encore de divers symptômes qui s'apparentent à ceux d'une commotion cérébrale. Lors de leur affectation, adultes et enfants se sont mis à souffrir de maux de tête, de nausées, d'étourdissements, de problèmes de vision ou de saignements de nez si abondants qu'on aurait dit qu'un meurtre avait eu lieu dans la maison, relate notre ex-diplomate. Justin Trudeau a assuré jeudi que son gouvernement avait pris la situation au sérieux dès le départ. Le gouvernement fédéral imposera de nouveau des mesures de protection des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent cette année, tout en ajustant le tir de façon à faciliter la pratique de la pêche, notamment celle du homard. Pêche et Océan a ainsi annoncé jeudi avoir réduit de 63 % la zone de fermeture complète des pêches avec engins statiques, un secteur qui se situe au sud-est de la Gaspésie. Les navires commerciaux de plus de 20 mètres qui entrent dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent devront par ailleurs respecter de nouveau une limite de vitesse. Ils pourront toutefois utiliser des corridors où la vitesse normale sera permise, à moins que des baleines noires y soient observées. L'ex-gérant des Expos de Montréal, Frank Robinson, est mort. Joueur étoile et membre du Temple de la renommée, Robinson est devenu le premier noir à devenir gérant dans le baseball majeur. Il était âgé de 83 ans. Le baseball majeur a confirmé son décès jeudi, survenu à sa maison de Bel Air, en Californie, où il recevait des soins palliatifs. Robinson a frappé 586 coups de circuit en carrière et gagné la triple couronne en 1966. Alors qu'il a aidé les Orioles de Baltimore à remporter leur première série mondiale. Et Michael Kingsbury ne s'en cache pas, toute sa préparation en prévision de la saison 2018-2019 a été faite en fonction des championnats du monde de ski acrobatique qui se dérouleront à Deer Valley en Utah, vendredi, aujourd'hui donc, et demain. Go, Michael!
Elle s'appelle Alexia Avina et sa chanson c'était, ou la chanson était Song 36.
Je l'y vois. En une du Journal de Montréal, cette fois, déclassage des trottoirs, la mairesse est aussi à blâmer. Les nouveaux contrats d'épandage d'abrasifs de l'administration Plante laissent carte blanche aux entraîneurs. Caisse de dépôt, bureau d'enquête, non pas un, mais 11 prêts pour le patron. Et juste à côté, on a le logo Otera, caisse de dépôt et placement du Québec. 9 points en 3 matchs, Drouin. On parle ici du joueur étoile Jonathan Drouin. Drouin explose. Les Canadiens de Montréal ont emporté 5-2 contre les Jets de Winnipeg hier et c'était l'euphorie. Les entrepreneurs ont carte blanche pour l'épandage, donc les contrats de l'administration Plante ne précisent pas la quantité d'abrasifs à utiliser. Les Montréalais n'en ont pas fini de rager contre les trottoirs glacés. Notre bureau d'enquête a découvert que tous les contrats octroyés par la Ville depuis 3 ans sont soit imprécis, soit exigent trop peu de sel. Dans 5 arrondissements, la Ville demande aux entrepreneurs d'épandre toujours la même quantité de sel et d'abrasifs sur les trottoirs, soit 150 grammes d'abrasifs par mètre carré, peu importe la météo. Ce taux est resté inchangé même pendant les gros épisodes de glace qu'a connu la métropole depuis 2 semaines, alors que 300 grammes par mètre carré auraient été nécessaires, a affirmé un responsable d'arrondissement qui souhaite garder l'anonymat. L'élu responsable du déneigement dans l'administration Plante, Jean-François Parenteau, admet que 150 grammes par mètre carré, c'est trop peu. Si un arrondissement est dans ce contrat, la ville centre fournit les abrasifs supplémentaires pour compenser, assure-t-il. Toutefois, certains arrondissements ont préféré ne pas s'aventurer dans la complexe opération de calculer la quantité d'abrasifs supplémentaires à fournir à l'entrepreneur et de récupérer l'excédent à la fin de l'hiver. L'arrondissement d'Antique-Cartierville, de son côté, dit avoir les mains liées par ce contrat qui, souligne-t-on, a été fait par la Ville-Centre. La Ville a tenté de corriger le tir en 2017, mais les nouveaux contrats ouvrent la porte à d'autres problèmes. Montréal laisse maintenant aux entrepreneurs le soin de décider de la quantité d'abrasifs à appliquer en fonction des conditions météorologiques. Le taux minimum est de 150 grammes par mètre carré et le maximum de 300 grammes par mètre carré. Les devis laissent une grande marge de manœuvre, déplore le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, Lionel Pérez. C'est normal que les entrepreneurs qui payent leur sel essaient de réduire leurs coûts. Et tout juste à côté des vieux contrats plus précis, dans Rosemont, la petite patrie et une partie d'Antique, Cartierville, les anciens contrats, entre guillemets, sont encore en vigueur. La quantité de sel et d'abrasif est spécifiée selon la température. 0 à moins 10 degrés Celsius, 150 grammes par mètre carré, moins 11 à moins 15 degrés, 200 grammes par mètre carré, et moins 15 à partir de moins 15 degrés, et on y va en descendant hein, jusqu'au plus froid, 250 grammes par mètre carré. Le nombre de passages de la saleuse est aussi précisé selon les précipitations. Ça a un coût, mais c'est quelque chose qu'on a décidé d'assumer, affirme le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau. Les anciens contrats très précis viennent à échéance à la fin de l'hiver et seront remplacés par ceux de la Ville-Centre qui posent problème. Le PDG du manoir Saint-Sauveur a été formellement accusé hier d'avoir causé le décès du fils aîné de Tony Accurso dans une violente embardée l'automne dernier dans les Laurentides alors qu'il était en état d'ébriété. Sébastien Varin, 39 ans, doit répondre d'accusations de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort, de conduite dangereuse provoquant la mort et d'avoir fui les lieux de l'accident qui a coûté la vie à James Jimmy Accurso. Dans la nuit du 26 octobre, les deux amis circulaient dans une luxueuse Tesla Model S sur la route 370 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson quand ils auraient fait plusieurs têtes à queue à la sortie d'une courbe. L'automobile a fini sa course contre une série d'arbres tuant sur le coup l'ancien directeur et vice-président de la firme Simard Baudry qui avait 43 ans. Sébastien Varin reviendra devant le tribunal le 3 mai prochain. De faux billets de 20 $ imprimés dans un garage de Trois-Rivières. La Sûreté du Québec a démantelé hier un laboratoire de fabrication de faux billets de 20 $ dans un garage de la Mauricie. Des informations du public ont mené des enquêteurs des crimes économiques de la Sûreté du Québec à découvrir une grosse imprimante à jet d'encre dans le banal garage d'une maison louée dans le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières. De faux billets de 20 $ canadiens étaient collés sur la machine. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient quand même bien faits, selon la police. On ne connaît pas la valeur totale des billets saisis. Un homme connu des milieux policiers en matière de fraude et une femme qui se trouvait sur les lieux ont été arrêtés puis libérés. Les deux suspects âgés de 26 et 25 ans pourraient être accusés à une date ultérieure. Les carambolages se multiplient sur les routes du Québec depuis le début de la période hivernale, forçant de nombreux experts à lancer un appel à la prudence. Le plus récent est survenu mercredi soir quand une automobiliste est morte et deux personnes ont été blessées sur l'autoroute 20, direction Est à Rivière-Baudette en Montérégie. Des centaines de véhicules ont été prisonniers du carambolage et la route a seulement pu être rouverte vers 5 heures hier matin. Un conducteur d'un camion semi-remorque a perdu la maîtrise de son véhicule avant de faire une mise en portefeuille et de se retrouver sur le terre-plein central. On le répète, mais il faut adapter sa conduite aux conditions de l'hiver. Ça fait toute la différence de diminuer sa vitesse et garder une distance avec les autres véhicules, souligne Joyce Kemp, porte-parole de la Sûreté du Québec, qui reconnaît qu'il s'agit d'un hiver ardu. Pluie verglaçante, bord des neiges, poudrerie et vent violent. La province a connu des cocktails météorologiques qui ont rendu la circulation très difficile, causant des milliers de collisions et de sorties de route en plus de nombreux carambolages majeurs. Et pour terminer, nouveau coup dur pour Alexandre Taillefer et le milieu de la presse écrite au Québec. Mishmash Media a confirmé hier matin la fin de l'édition papier du magazine Culturel Voir, dont le contenu sera maintenant exclusivement publié sur le web. L'édition de janvier-février en kiosque sera la toute dernière, 32 ans après la fondation du périodique en novembre 1986. La chute des revenus publicitaires est notamment évoquée pour expliquer la fin de la publication papier, qui survient alors que Mishmash a enregistré une perte de 3,6 millions au cours des 6 premiers mois de l'année dernière.
Je marche le long du chemin, je me traîne et traîne mon chagrin sous un ciel de fer. Fanée par trop de tant d'histoires qui sont déjà passées. Et tu me dis qu'il fait un temps for mad dogs and Englishmen. Oui, un drôle de temps où seulement des bras ou des fous qui marcheraient. Seulement des braves gens comme nous sous un soleil qui nous éclaire comme une brume. Et quand la mémoire me boit, je me fie.
Dogs and Englishmen, c'était Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière.
L'Association des professionnels de la chanson et de la musique a le plaisir de vous dévoiler les artistes en nomination pour la 10e édition du Gala Trior. Ce gala bisannuel est l'occasion de souligner l'excellence musicale et de célébrer la musique franco-canadienne. Au total, 76 artistes et professionnels de l'industrie des quatre coins du pays sont en nomination dans 29 catégories. Pour cette 10e édition du Gala Trior, alors c'est pour amorcer la lecture de textes issus de journaux canadiens. Cette nouvelle est dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse, entre autres. Pour une seconde fois, la soirée du Gala Trior sera télédiffusée à l'échelle nationale en direct sur les ondes d'Unité TV. Les internautes pourront aussi visionner le spectacle et la remise de prix grâce à une diffusion en direct sur le site et la page Facebook d'Unité TV. Le Gala Trior aura lieu le 2 mai prochain à 20h. Et sera présenté pour la 4e fois au Centre des arts Shankman à Orléans, en Ontario. Le gala sera animé par l'animateur et humoriste Vincent Poirier, cofondateur du groupe professionnel d'improvisation Improtéine. Alors, parmi les quelques nominations, artistes solo, Damien Robitaille, Étienne, Fletcher, Jacobus, Mélissa Ouimet et Yao ou YAO. Le groupe de l'année, Amélie et les singes, Bleu, Georgian Bay, Jérémy et The Delicious Hounds, Les Rats Swamp et Moonfruit. Auteur et ou compositeur, compositrice de l'année, Cindy Douard, Damien Robitaille, Étienne Fletcher, McLean et Moonfruit. Album de l'année, Alexis Normand pour l'album Alexis Normand. Céleste Lévy pour son disque Donne-moi le temps. Cindy Douard, Panorama. Damien Robitaille, Univers parallèle. Et McLean, Une dernière fois. Et autre nomination, album de l'Acadie. Julie Aubé, Joie de vivre. Les Hôtesses d'Hilaire, Viens avec moi. Sean Ferguson, Résilience. Simon Daniel, Nightcrawler. Et Vichten, Horizon. Découverte, artiste ou groupe, Étienne Fletcher, Jérémy and the Delicious Hounds, Kimia, Les Rats Swamp et Marie-Claude. Et découverte de l'Acadie, Chloé Brault, Émilie Landry, Julie Aubé, Marty Pili Roots et Pierre Guitard. Chanson primée. Alors, la chanson, c'est le public en fait qui vote pour la chanson et vous pouvez faire votre vote en allant sur le site trior.ca. Et dans les nominations, dans la catégorie chanson primée, Damien Robitaille, la chanson « Tout feu, tout flamme », la chanson « Chérie, chérie » d'Étienne Fletcher, la chanson « Amour jetable » de Mélissa Ouimet, « En attendant demain » de Rayana et « Nomade » de Yao ou YAO. Ça doit être Yao. Alors voilà pour les trilles or qui s'en vient bientôt, mais pas quand même pas demain matin, là, mais le 2 mai. Ça nous donne espoir que le printemps est à l'horizon. Dans le journal francophone du Yukon, l'aurore boréale, c'est un article de Marine Dumaine qui a été publié le 24 janvier. Qui au Yukon ne connaît pas la talentueuse Nicole Edwards? Originaire de l'Ontario, la chanteuse de jazz, folk et blues partage son talent avec la communauté yukonaise depuis 1997. En 2001, Nicole apprend qu'elle est atteinte d'une maladie chronique et auto-immune, la sclérodermie. Malgré cette maladie, la chanteuse continue ses projets artistiques. Aujourd'hui, elle a 5 albums à son palmarès et très récemment, elle a même participé avec Martin Berkman et Michaela Saint-Pierre à un projet vidéo au sujet de la résilience face à la maladie. Cependant, bien que son état de santé soit resté relativement stable pendant plusieurs années, les diagnostics ont évolué pour inclure d'autres maladies. Rénaux, Lyme, Hashimoto et épuisement des glandes surrénales affectent désormais l'artiste. Lors des 18 derniers mois, Nicole a dû se concentrer sur sa santé et malgré tout, allongée presque constamment sur son canapé, elle ne cesse de réfléchir à des idées créatives et elle continue d'être pleinement motivée pour apporter sa contribution artistique à la communauté. Son état, cependant, continue de se dégrader. C'est pourquoi ses proches ont décidé de créer un fonds de soutien. Nous utilisons le modèle PATREON. Patreon ou Patreon? Patreon, merci, Monsieur Mathieu. Car Nicole est une artiste, peut-on lire sur le site dédié à cette collecte de fonds. Il s'agit d'une plateforme de financement participatif semblable à GoFundMe ou à d'autres plateformes plus connues. Néanmoins, celle-ci est dédiée aux artistes. Elle permet de faire des dons réguliers, mensuels ou au moyen d'une carte de crédit. Nicole doit se concentrer sur sa santé et sur ses besoins immédiats. Plus précisément, la nutrition, la médication appropriée et le repos. Les fonds collectés via cette page Patreon seront utilisés pour financer les soins professionnels et des médicaments. Alors, j'ai des petits problèmes avec ma tablette qui a l'air complètement figée. Alors, j'essaie de réparer le tout et je vous reviens. On continue en musique. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, alors je n'y arrive pas, mais on va prendre une petite pause musicale et j'imagine que ça va me donner la chance d'avoir un peu plus de temps pour voir ce qu'il en est. Et puis, on va se retrouver, bien sûr, après une chanson à 11h avec la suite de l'émission. C'est vendredi, alors on se quitte à 11h30 aujourd'hui.
Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi. 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 traversant la ville à 200 à l'heure, on mène à l'urgence un homme immobile avec une pile à la place du cœur. Toute la semaine je me démène de 9h jusqu'à 5h. Le trafic me panique quand je roule à la noirceur. Le parking du building a toujours la même odeur. En rentrant dans l'appartement, j'allume mon climatiseur. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène.
Catherine Major, une reprise de la chanson Oxygène. Très bon. Merci de la suggestion.
Ça me fait plaisir. Alors, allons-y donc avec la continuation de cette émission. Encore une demi-heure et comme dans le dernier segment, j'ai eu des petits problèmes avec la tablette et que, bon, bien, le segment texte tiré de journaux canadiens en a pris pour son rhume. Je vais vous lire au moins deux articles. Un qui s'intitule « Le baluchon Alzheimer bientôt dans l'Ouest », c'est Hélène Lequitte, ça a été publié le 7 février. Le 31 janvier, une présentation a eu lieu dans les locaux de l'ACFA provincial concernant la possibilité d'implanter dans l'Ouest l'initiative d'un programme d'appui pour les personnes aidantes à domicile, le baluchon Alzheimer. C'est pour mettre en place un tel projet, une subvention du secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes permettra d'aller à la rencontre de ces personnes afin de connaître une réalité souvent méconnue. Si l'Ouest canadien demeure pionnier dans le domaine de l'aide à domicile en français, les besoins sont bel et bien là. Il y a des effets néfastes sur les personnes aidantes, explique la consultante Agathe Gaulin, responsable pour les aînés en Saskatchewan et pour les femmes. Par le passé, Mme Gaulin était elle-même de ce côté-ci de la barrière et connaît bien l'exigence et les défis qui entourent ces personnes. Premier constat, selon elle, la reconnaissance pour les personnes aidantes, une majorité de femmes est quasi inexistante. Aujourd'hui, afin d'implanter ce service de répit, il faut s'interroger sur les actions à entreprendre afin d'adresser les problèmes que rencontrent les personnes aidantes à domicile. Bien souvent, l'un des membres de la famille se dévoue pour s'occuper d'un parent malade ou vieillissant. Bien qu'il existe actuellement peu de données sur la situation économique des personnes aidantes, le but du projet est de leur donner la parole et que ces personnes nous content leurs histoires, explique Agathe Gaulin. Le principe du baluchonnage prend en compte les particularités des personnes. La personne aidante aura par exemple le même accent et viendra du même coin géographique que le proche aidé afin de faciliter les soins. Ce programme existe déjà depuis de nombreuses années au Québec et si cette première étape s'avère concluante, le baluchon Alzheimer de Montréal pourrait venir appuyer l'implantation du baluchonnage en Alberta. La prochaine étape sera donc de créer un groupe de travail pour identifier des personnes qui voudront bien témoigner de leur réalité. Avis aux intéressés, vous pouvez contacter la Fédération des aînés de l'Alberta. Et cette fois dans l'action, le Centre des sciences de l'Ontario célèbre ses 50 ans. En Ontario comme ailleurs dans le monde, les années 1960 furent une période de changements socio-économiques profonds. Le paysage tant rural qu'urbain s'est aussi transformé, d'importantes infrastructures sortant de terre pour marquer jusqu'à nos jours l'image que la société se fait d'elle-même. C'est ainsi qu'en 1969, à Toronto, naissait le Centre des sciences de l'Ontario, et 50 ans et 52 millions de visiteurs plus tard, l'institution célèbre en grand sa contribution au développement des connaissances chez toutes les générations. Le lancement des célébrations a eu lieu le 24 janvier dernier en présence de Michael Thibolo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, et d'Elizabeth Dawn Deswell, lieutenant-gouverneur et présidente d'honneur du 50e anniversaire. C'est aussi en cette occasion que fut inaugurée l'exposition interactive Inventorium 2.0, qui conjugue art, science et technologie et donne la chance aux visiteurs de s'adonner au codage, au découpage au laser, au bricolage. Bref, de mettre leur imagination à profit. En cette année jubilaire, d'autres expositions fascinantes seront offertes au public, puisque c'est aussi en 2019 qu'est commémoré le premier voyage sur la Lune. Les visiteurs auront droit à un été consacré à l'exploration spatiale, avec Astronaut et Woman and Woman in Space. En septembre, ce sera au tour de Mental ou Mental de piquer la curiosité des petits et des grands. Plusieurs autres expositions touchant des thématiques diverses, biologie, histoire, climatologie, etc., se trouvent au Centre des sciences où chacun peut trouver quelque chose qui l'intéressera, d'autant plus que l'institution ne laisse pas le visiteur passif et fait la part belle à l'expérimentation. Le Centre des sciences s'engage à évoluer continuellement pour satisfaire les besoins changeants du public maintenant et dans l'avenir, a déclaré Maurice Bitran, directeur général et scientifique du Centre des sciences de l'Ontario. En fêtant notre 50e anniversaire toute l'année, nous profitons de l'occasion pour mettre à l'honneur le pouvoir de la science et offrir toutes sortes d'expériences qui fourniront à la prochaine génération les capacités dont elle a besoin pour s'épanouir dans un milieu constamment et rapidement en évolution. C'est donc un rendez-vous pour toute la famille. René-Claude, vous connaissez cette chanteuse. Eh bien, on apprend cette triste nouvelle. Il y en a qui le savaient déjà, mais elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Et on en parle dans le Journal de Montréal. La chanteuse René-Claude est atteinte de cette maladie. Donc, c'est le Journal de Montréal qui en parle, mais c'est l'éco-vedette en kiosque depuis hier qui a mis à sa une cette triste nouvelle. La publication a obtenu une entrevue exclusive avec le conjoint de l'interprète de « Le début d'un temps nouveau », Robert Langevin. Ce dernier partage la vie de René-Claude depuis plus de 30 ans. L'article nous informe que René-Claude, qui célèbre ce mois-ci ses 60 ans de carrière et soufflera ses 80 bougies l'été prochain, a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2013. Depuis novembre 2017, l'artiste demeure dans une résidence pour personnes âgées non autonomes. Il y a 7 stades à la maladie et elle est au niveau le plus élevé depuis l'été 2017. Ensuite, c'est l'étape de la fin de vie. La durée de chaque stade peut durer des mois ou des années, explique Robert Langevin à Éco-Vedette. René-Claude ne peut désormais plus s'exprimer et ne prononce que 2 ou 3 mots, une fois ou deux par semaine. Elle ne reconnaît plus son amoureux des 3 dernières décennies non plus. Robert Langevin jugeait important d'informer le public de l'état de santé de sa douce et d'y espérer que le milieu artistique aura envie de souligner les anniversaires de René-Claude en 2019. « Je suis pour la transparence. Il n'y a rien de honteux à être malade. C'est l'un des états de la vie. On n'a pas à le cacher, plus qu'autre chose qui peut nous arriver. René n'est pas responsable de ce qui lui arrive de toute façon », affirme-t-il à Éco-Vedette. Quelques suggestions sorties, courts-métrages finalistes aux Oscars. Il a beaucoup été question ces dernières semaines de la présence québécoise et canadienne dans les courts-métrages de fiction et d'animation finalistes au prochain gala des Oscars. Le cinéma du Parc vous donne l'occasion de voir en rafale tous les films inscrits dans ces deux catégories. De plus, les amateurs de documentaires pourront aussi voir les cinq courts finalistes dans cette autre catégorie. Ça se déroule donc au cinéma du Parc jusqu'au 24 février, jour des Oscars. Soir de gala, l'Hexagone et nos voisins du Sud célèbrent leurs scènes musicales respectives cette fin de semaine, une occasion de faire le plein de nouveautés ou de voir triompher ou pas vos artistes préférés. Les Victoires de la musique 2019 et la 61e édition des Grammy Awards, c'est dimanche à compter de 20h. Et c'est dans la chronique de José Blanchette qui s'intitule « Gin, paillettes et grandes pépées ». C'est comme un pépé, mais au féminin ici, les joies du burlesque au Wiggle Room. Et en bas de page, elle nous suggère un livre avec toutes mes sympathies. Oui, c'est la semaine de prévention du suicide. Je suis étonnée de constater combien de personnes de mon entourage ont lu le récit d'Olivia de Lamberterie. Avec toutes mes sympathies, c'est le titre, la journaliste française relate la difficile traversée du désert de son frère qui s'est suicidé à Montréal en 2015. Hymne à l'amour, cri du cœur, somptueuse douleur, chaque ligne est juste et empreinte d'empathie et d'intelligence. Elle pose des questions essentielles sur la liberté de disposer de sa vie et un regard pas du tout convenu sur ce geste qui n'est pas à juger, mais nous déstabilise tous. Tellement de tendresse entre ces lignes et d'impuissance pour ponctuer la douleur de perdre. Le livre a remporté le prix Renaudot en 2018. Je l'ai adoré. Alors, je vous rappelle le titre avec toutes mes sympathies et l'auteur Olivia de Lamberterie. Je vous parlais tantôt de René Claude qui est malheureusement aux prises avec cette terrible maladie, la maladie d'Alzheimer, elle qui nous a donné de très, très belles chansons. On en a choisi une. Et puis on pense à elle. Du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime. Et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde. Des yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule. Du tambour, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. C'est le début d'un, c'est le début d'un.
René Claude, Le début d'un temps nouveau, chanson de Stéphane Venn.
Merci Mathieu. Alors allons-y et continuons avec d'autres suggestions sorties puisque c'est la fin de semaine. Peut-être que vous avez envie de sortir, d'autant plus qu'on n'annonce pas de verglas, pas de grand froid. Il va faire froid un peu, mais quand même, ce sera une fin de semaine typique hivernale. Je ne sais pas si ça veut dire encore quelque chose. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais en tout cas, des suggestions sorties, mais vous sortez puis vous rentrez tout de suite après. Parce que c'est ça, c'est le Salon du livre, entre autres, du comté de Longueuil. C'est le Salon du livre Jeunesse à Longueuil. Aujourd'hui, demain et dimanche, de 9h30 à 17h, à la salle Jean-Louis Miette du Théâtre de la Ville de Longueuil, vous pourrez découvrir nombre de livres jeunesse et mieux connaître la culture autochtone qui est à l'honneur pour cette fête du livre. Plusieurs spectacles sont prévus, dont Ulysse et Pénélope, de l'auteur Louise Portal, qui est présenté samedi à 10h30. À voir aussi Petit Loup et le Wendigo, pour les tout-petits à partir de 2 ans. C'est gratuit, mais on paye le stationnement et les places des spectacles sont limitées. Alors peut-être que notre collègue Marie Lalande, oui, comment puis-je oublier son nom de famille? Marie Lalande sera intéressée par l'événement. Elle qui lit à tous les dimanches des livre jeunesse. Est-ce que vous connaissez l'heure? De toute façon, c'est sur le site Internet, hein, Mathieu? Le dimanche à 8h30, un grand merci. Et puis, si vous manquez l'émission, ça s'appelle Marie raconte. C'est disponible sur notre site Internet à Canal M de Vues et Voix. Je poursuis les Jeux d'hiver au Parc olympique jusqu'au 9 mars, tous les samedis et dimanches de 10h à 16h. On profite de l'hiver en famille à l'esplanade financière Sun Life. 12 jeux grandeur nature, un espace chalet, un parc de snow skate, une patinoire et une mini-glissade, accessible par la rampe située à côté du 4141 avenue Pierre de Coubertin. Et c'est gratuit. Expo Yoga. Êtes-vous des amateurs de yoga? Jusqu'à dimanche, l'événement Expo Yoga aura lieu au Palais des Congrès de Montréal. En plus de participer à des ateliers et des classes de maîtres, on pourra voir des démos culinaires et entendre des conférences sur la naturopathie, l'ayurveda, la méditation, le bien-être, etc. Et donc, il y a plusieurs tarifs pour tous ces ateliers, ces activités. expoyoga.ca. Salon Expo Habitation, jusqu'à dimanche au Stade olympique, le Salon Expo Habitation regroupe sous un même toit les dernières tendances de l'industrie, les produits innovants de l'heure, des conseils pratiques et des conférences qui guideront les visiteurs dans leur projet de maison, de condo ou de chalet. Tarif, c'est 13 $ en ligne, 16 $ en personne et vous économiserez 5 $ en présentant votre titre de transport de la STM. Et pour poursuivre, c'est l'agenda du week-end dans le Journal de Montréal. Autre suggestion, jusqu'au 30 mars, la galerie Simon Blais présente des œuvres de Marcel Ferron et Jean-Paul Riopel. De manière audacieuse, nous avons mêlé les époques, agencé des œuvres au format normalement incompatible et aux techniques de création diverses. L'exposition est accompagnée d'un catalogue qui sert de guide de visite et invite le spectateur à un jeu de devinettes. L'horaire du mardi au vendredi de 10h à 18h. Samedi de 10h à 17h et c'est à la galerie simonblais.com. Vraiment, je pense que ça vaut le détour. Marcel Ferron et Jean-Paul Riopel, deux de nos grands artistes du Québec. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on revient sur les événements qui ont entouré le Congrès des écrivains noirs qui s'est tenu à Montréal en 1968, ainsi que sur les manifestations étudiantes contre le racisme à Concordia en 1969. Au menu de cette riche journée des conférences, des ateliers, des débats, des performances et de la musique, de nombreuses personnalités seront présentes, parmi lesquelles René Saint-Éloi, Marie-Lou Craft, Webster, qui vient de lancer un album, Daniel Grenier, Yvonne Greer, Franz Voltaire et Joël Desrosiers. Ça se déroule le 10 février, donc c'est dimanche, de 14h à 20h, à la Maison d'Haïti. La tournée mondiale de la diva pop Sarah Brightman fera un arrêt à la Place Belle pour le premier de ses trois concerts sur le sol canadien, la soprano britannique à la voix de Crystal, qui chantera les succès de son plus récent album « Hymn ». C'est adjoint les services du bijoutier Swarovski pour parer ses robes et costumes le temps de la tournée. Un spectacle éclatant en perspective, écrit Sylvain Sarrazin dans la presse. Ça se déroule demain, 9 février, à la Place Belle, Sarah Brightman, tout en cristal. Fruit de 4 années de recherche sur la communauté cyborg et transhumaniste, le spectacle post-humain et l'agréable surprise de la saison dernière, mariage entre théâtre et documentaire, autofiction et performance, la pièce est mise en scène par Dominique Leclerc et Edith Patnaud avant d'atterrir en avril à Berlin, à la Showbühne. Je ne sais pas si je prononce bien, Mathieu, qui connaît si bien l'allemand. S-C-H-A-U. B-U-T-R-E-M-A-H-N-E.
Schönbrunn.
Merci. Au Festival international New Drama. La production est à l'affiche à Espace Libre jusqu'à samedi, puis dans une dizaine de villes au Québec au cours des prochains mois. C'est donc à l'Espace Libre jusqu'au 9 février. André Digène donne 3 étoiles au long métrage Troisième Noce de David Lambert qui met en vedette Bouli Lanners, Rachel Mouamza, que vous avez peut-être vu à Tout le monde en parle et qui a surtout été la vedette de Rebelle de Kim Nguyen, et Eric Kabongo. En entrevue, le réalisateur David Lambert comparait sa première incursion dans la comédie dramatique à un exercice de funambule. Dans l'ensemble, c'est réussi. Son film n'est pas sans faille, mais il ne tombe pas dans le vide. Moins gris que les précédents, son long métrage, qui n'est pas sans rappeler Green Card de Peter Weir, passe avec aisance et sans rupture de ton dérangeante, de moments drôles à d'autres de tension et au drame. Il est aussi porteur de thèmes chers aux cinéastes tels l'immigration, les relations de couple et le fait d'assumer sa différence. Alors, du côté de l'interprétation, Bouli Lanners, vieux routier du cinéma belge, est convaincant, mais demeure longtemps sur le même registre. Alors que Rachel Mouamza passe de la colère à l'espoir, au rire et aux larmes avec aisance. Alors, je vous rappelle le titre, Troisième Noce, c'est écrit au pluriel, de David Lambert, qui est à l'affiche à compter d'aujourd'hui. On parle aussi avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme du film français Edmond. Voilà, c'est tout pour le Quotidien des quotidiens, édition du vendredi 8 février. Merci Mathieu Tessier. À la mise en onde, au choix musical et aussi celui qui m'a fait un très bon thé au jasmin. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle fin de semaine. Merci d'être là. On se retrouve lundi.